Une histoire populaire du football, c'est le nom de ce bouquin qui raconte une autre histoire du ballon rond, de ses origines à nos jours. Son auteur, Michael Correia, journaliste à CQFD et à Jeff Clack, de revue et mensuel de critique sociale, Michael Correia, était de passage dans la région au cinébar L'Hybride à Lille le 8 novembre dernier pour une séance rencontre et projection. On l'a interviewé juste après la séance.
La démarche première, c'était de dire il y a une histoire du football qu'on connaît tous, qui est une histoire qui est un peu écrite par les institutions, par la FIFA, qui est une histoire avec les grands clubs, les grands joueurs comme Pelé ou même aujourd'hui Mbappé qu'on connaît tous. Moi, le but, c'était d'écrire une autre histoire, une histoire pas en bas, une histoire du peuple. Du coup, c'était pas mettre en avant ce que dit un peu la FIFA, de dire le foot, c'est que du sport et c'est surtout pas politique. Moi, je voulais montrer au contraire qu'il y a aussi un football qui est plus synonyme d'émancipation, de résistance et qui est une vraie culture populaire aussi.
D'échanges, de conflits aussi entre le peuple, le prolétariat et puis l'aristocratie, la bourgeoisie, dès la codification finalement des règles du football.
Oui, ça. Il y a très peu de gens qui le savent, mais le foot est né au 19e siècle. Bon, on dit toujours que c'est un sport inventé par l'aristocratie, mais à la base c'était déjà des jeux populaires qui se pratiquaient dans les villages, dans les campagnes en Angleterre, qui ont été codifiés, standardisés par la grande bourgeoisie. Mais c'est vrai qu'ensuite, le peuple s'est réapproprié ce sport-là. C'est-à-dire que les patrons d'usines ont voulu inculquer le football à leurs ouvriers dans une optique de contrôle social. Mais ça s'est retourné contre eux parce qu'ils se le sont réapproprié comme une culture à part entière. Ils ont transformé le football en culture ouvrière. Donc, on voit vraiment les contradictions du football tel qu'on le connaît aujourd'hui. Elles sont déjà là dès ses origines, en fait.
Aujourd'hui, on peut dire que à qui appartient le football, il est un peu dépossédé des classes ouvrières, des milieux populaires, l'entrée au stade et puis aussi la structuration des gros clubs.
Il y a toujours eu deux choses. Il y a le football en tant qu'industrie qui n'a pas arrêté de croître. On le voit encore plus aujourd'hui et depuis pas longtemps avec les Football Leagues, qui est une vraie industrie marchande. Mais ça, on peut faire le parallèle avec d'autres cultures de masse, comme la culture de la musique ou la culture du cinéma. On voit le même symbole. Mais ça reste avant tout une pratique, le football, et qui appartient aux gens. Là, pour s'amuser, pour pratiquer le football, il suffit d'un ballon et d'un coin de rue, et puis on peut déjà se le réapproprier. Donc il est façonné par le capitalisme pour en faire une industrie, mais il est avant tout pratiqué par les gens, les personnes, que ce soit les hommes et aussi les femmes de plus en plus.
Il y a des alternatives qui s'inventent aussi au foot business, les protest clubs, des choses comme ça.
Effectivement, oui, il y a plusieurs alternatives. Bon, il y a le foot de rue, pour moi, ça reste vraiment l'alternative, qui est un foot qui est complètement méconnu, qui reste en dehors de l'institution, et même en France, c'est un peu tabou parce que on reste le football, on reste à peu près à 2 millions de licenciés en France, et c'est pas anodin. C'est que la plupart des jeunes aujourd'hui continuent de pratiquer le football, mais en dehors des clubs. Ensuite, effectivement, il y a tout le mouvement coopératif qui est en train de naître, qui est né en Angleterre dans les années 90. On voit vraiment des supporters qui créent eux-mêmes leur propre club de football, qui rachètent aussi des parts de leur club. Et c'est un phénomène qu'on voit aussi en France. On voit aussi des clubs, on voit aussi des supporters, notamment à Marseille ou à Nantes, qui sont en train de cotiser pour racheter des parts du club, pour avoir une voix au sein du conseil d'administration. Et puis après, pour moi, le nouveau champ, c'est aussi le football féminin. On va avoir la Coupe du Monde l'année prochaine qui va se dérouler en France. Là, aujourd'hui, c'est un vrai champ de lutte entre une pratique qui reste encore assez populaire et un peu en marge du foot business et cette grande compétition mondiale qui est le foot, qui est la Coupe du Monde. Et je pense qu'on va avoir quelque chose d'assez intéressant qui va se passer.
Le football, c'est un champ à repolitiser, à réinvestir pour la gauche notamment.
La gauche, elle a un peu abandonné ce champ-là. Je pense qu'il y a eu des vrais débats au début du XXe siècle sur la volonté de créer des vrais clubs socialistes, des clubs rouges. Ça a donné une fédération qui existe toujours, la FSGT, la fédération sportive hégémonique du travail, qui est un peu en train, qui existe toujours effectivement. Mais aujourd'hui, il faut se réapproprier les tribunes. Il y a l'extrême droite s'est vraiment réapproprié ce champ-là parce qu'elle a su que c'était un désert politique. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a des tribunes qui sont à gauche. Je pense à Marseille, il y a toujours une banderole Marseille antiraciste ou Marseille antifasciste. Il y a des supporters à Bordeaux, à Paris, au Red Star de Saint-Ouen. Il y a encore une tribune d'Auteuil ou encore des gens qui portent des valeurs d'émancipation, des valeurs antiracistes, antisexistes, etc. Dans les tribunes. Et il faut que la gauche s'approprie cette question-là. Un sport qui brasse des milliards d'euros et des milliards de téléspectateurs et par essence politique. Donc on est obligé de se prendre cette question.
Michael Correia, rencontré le 8 novembre dernier au Cinébar Libride à Lille. Il est l'auteur de ce livre, Une histoire populaire du football, paru aux éditions La Découverte. On vous recommande chaudement la lecture de ce bouquin, indispensable si on me demande.